On a tous déjà vécu ce truc, cette sensation hyper étrange, presque universelle, quand on a un smartphone entre les mains.
Oh ouais, le fameux moment de paranoïa.
Mais complètement, imaginons juste la scène. On est en train de prendre un café, on discute de, je sais pas, d'une vague douleur au dos ou d'un vieil aspirateur qui commence à lâcher.
Ou même d'un rêve de voyage, genre « Ah tiens, j'irai bien au Japon ».
Voilà, exactement. Le voyage au Japon, on tape rien sur un clavier, on fait zéro recherche sur Internet. Et là, paf, quelques heures plus tard, en scrollant sur son téléphone…
Les pubs apparaissent.
C'est ça, des pubs parfaitement ciblées pour des matelas orthopédiques, des aspirateurs sans fil ou des vols directs pour Tokyo. Le malaise total.
C'est immédiat, ouais. La première pensée, c'est la trahison, en fait.
On se dit, le téléphone m'écoute, ce petit bout de verre, là, c'est un micro ouvert en permanence. C'est vraiment la grande légende urbaine de notre époque, quoi.
Bah, c'est une réaction profondément humaine, tu sais. Notre cerveau, il est programmé pour chercher des liens de cause à effet.
Ouais, on veut une explication simple.
C'est ça. Quand la coïncidence semble trop parfaite, l'explication la plus intuitive, c'est de se dire qu'on est sur écoute. C'est tangible, c'est facile à imaginer. Sauf que bah, la réalité technique derrière ça, elle est radicalement différente.
Et beaucoup plus complexe, j'imagine.
Ah, mais infiniment plus complexe, ouais.
Bah, c'est exactement pour ça qu'on fait cette plongée aujourd'hui. L'objectif de cette exploration, c'est vraiment de démêler le vrai du faux sur cette histoire de surveillance mobile. On a compilé des enquêtes techniques, des analyses en cybersécurité pour comprendre comment ces algorithmes fonctionnent dans l'ombre.
Et surtout, on va donner un plan d'action concret étape par étape.
Tout à fait, pour reprendre le contrôle. Ok, décortiquons tout ça. Est-ce que le mythe de l'écoute permanente, ça tient vraiment la route face à la réalité matérielle de nos téléphones ?
Alors là, la réponse courte, c'est un non catégorique. L'écoute constante, genre 24 heures sur 24, c'est un pur fantasme.
Vraiment ?
Un fantasme total.
Ouais.
D'un point de vue pragmatique, c'est juste une impossibilité absolue pour n'importe quelle boîte de la tech. Il y a des contraintes physiques incontournables.
Ah oui, la première contrainte, on l'oublie souvent d'ailleurs, c'est tout bêtement la batterie, non ?
Mais carrément. Activer un micro et le laisser en mode enregistrement continu, c'est une des tâches les plus lourdes pour un processeur.
C'est vrai que quand on passe un appel vidéo un peu long, on voit le pourcentage de batterie qui fond, quoi.
C'est exactement ça. Si des applis analysaient le moindre bruit ambiant en permanence, le téléphone tiendrait même pas la matinée. C'est un suicide commercial. La marque serait ruinée en deux jours.
Les gens pèteraient un câble avec une batterie pareille. Mais imaginons, juste pour jouer l'avocat du diable, qu'ils aient une batterie révolutionnaire.
Même avec une batterie magique, tu te heurtes direct au deuxième mur, qui est la donnée cellulaire. Enregistrer de l'audio en continu, ça génère une quantité phénoménale de data.
Ah ouais, des gigaoctets entiers.
Du dizaines, voire des centaines de gigas par mois, juste pour une personne. S'il devait envoyer ce flux vers des serveurs externes pour nous espionner, bah, les factures de téléphone exploseraient.
Et les opérateurs le verraient, non ?
Bah, bien sûr. Ils remarqueraient un trafic sortant massif et constant. C'est une anomalie réseau que tu peux tout simplement pas masquer à grande échelle.
Et puis, il y a un troisième obstacle, qui est peut-être le plus gros, c'est le coût pour traiter tout ça.
Le coût de traitement, ouais, c'est délirant.
Bah oui, parce que si on part du principe absurde qu'ils aspirent tout cet audio sans vider les batteries ni saturer les réseaux, ils en feraient quoi de tout ce bruit ?
Faut le stocker, le transcrire, l'analyser.
Des milliards d'heures de conversations tous les jours, avec les bruits de la rue, le vent, la musique en fond.
Les gens qui parlent en même temps, dans toutes les langues.
Exactement. Trouver la puissance de calcul en serveur juste pour extraire le mot « matelas » ou « aspirateur » de ce brouhaha mondial, ça coûterait des milliards de dollars. Dépenser une fortune pareille juste pour vendre trois pubs, ça n'a aucun sens.
C'est vraiment le coup de grâce de cette théorie, ouais. D'ailleurs, les experts en cybersécurité s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont fait le test plein de fois.
Ah oui, j'ai vu ces enquêtes, c'est génial. Des téléphones posés au milieu d'une pièce.
Immobile, ouais.
Et des gens autour qui parlent très fort de trucs totalement improbables.
Genre de la nourriture pour iguane ou un faux projet de voyage en Laponie. Et la règle, c'était de ne jamais rien taper sur le téléphone.
Rien du tout. Et pendant ce temps-là, t'avais des ingénieurs qui analysaient chaque octet qui entrait et sortait de l'appareil. Le résultat ? Zéro. Le trafic réseau restait désespérément plat. Aucun paquet de données secrets envoyé à Meta ou Google. Rien.
Rien de rien.
Mais du coup, là, il y a quand même une contradiction qu'il faut absolument éclaircir.
Laquelle ?
Bah, si le téléphone n'écoute pas, comment fonctionnent les assistants vocaux ? Pour que la machine réponde à « OK Google » ou « Dis Siri », elle est bien obligée d'avoir l'oreille tendue en permanence, non ?
Ah, c'est la nuance qui sème la confusion, en fait. C'est purement matériel. Faut pas voir l'assistant vocal comme un sténographe qui note tout. Faut plutôt l'imaginer comme un chien de garde profondément endormi.
Un chien de garde qui dort, d'accord.
Ouais. Ton téléphone, il a une puce spécifique, complètement séparée du processeur principal. Elle consomme quasiment rien. Et cette puce, elle comprend pas le langage humain.
Ah bon ?
Non, elle est juste calibrée pour réagir à une signature sonore ultra précise. Une fréquence audio unique qui correspond à ton mot-clé d'activation.
Donc, le chien de garde, il dort et il réagit que s'il entend la sonorité exacte de son nom.
C'est ça. Tout le reste, tes discussions sur le mal de dos ou l'aspirateur, c'est même pas traité comme du langage. Le son entre, il boucle pendant quelques secondes en local et il s'efface de la mémoire vive instantanément.
Et rien ne part sur Internet à ce moment-là ?
Rien. La connexion avec les serveurs externes, elle se lance uniquement quand le mot-clé est reconnu et que le système principal se réveille.
Bon, d'accord. Des fois, il y a des activations accidentelles parce qu'un bruit ressemble au mot-clé.
Ouais, ça arrive. Mais c'est une erreur de déclenchement local, tu vois. C'est pas une infrastructure secrète de surveillance de masse.
C'est fou. Mais tu sais quoi ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, d'une certaine manière, c'est encore plus glaçant.
Ah ben, ça oui.
Parce que si le téléphone a littéralement les oreilles bouchées, par quelle sorcellerie l'algorithme arrive à deviner l'envie de partir au Japon juste après un café ?
Et la réalité derrière ça, elle est bien pire qu'un bête micro caché. C'est redoutable.
C'est quoi alors ?
C'est de l'analyse contextuelle. C'est une déduction statistique poussée à un niveau industriel. L'algorithme n'a pas besoin de t'écouter, parce qu'il passe sa vie à ramasser des miettes numériques.
Des miettes numériques ? J'aime bien le terme.
Ouais, c'est un puzzle chéant, quoi. Chaque petite pièce a l'air inoffensive, mais quand tu mets tout ensemble, ça révèle tes intentions.
Ok, on va reprendre l'exemple du Japon pour décortiquer ça étape par étape. C'est vertigineux. Donc, chronologie, un dîner avec un ami, on parle de Tokyo, et boum, la pub le lendemain. Aucun micro utilisé. Que s'est-il passé en arrière-plan ?
Déjà, la base. La géolocalisation.
Exact. Le téléphone voit que deux personnes sont au même endroit, à la même heure, peut-être connectées au même réseau Wi-Fi dans le café.
Pour l'algorithme, ça, c'est une poignée de main numérique. Une interaction sociale validée.
Première brique, ok. Il connecte nos profils, mais que sait-il sur mon ami ?
Ah, c'est là le piège. Peut-être que cet ami, de son côté, il a cherché des vols pour Tokyo 2 jours avant sur son ordi.
Ouh.
Par simple effet de proximité, la machine fait une déduction mathématique. Elle se dit « ces deux-là passent du temps ensemble, ils parlent sûrement de leur projet commun, ils s'influencent ».
C'est diabolique. Et ça s'arrête pas là, parce qu'on rajoute nos propres habitudes là-dessus. Les trucs qu'on fait sans même s'en rendre compte.
Totalement.
Genre, 3 jours avant, j'ai peut-être laissé mon pouce traîner un peu trop longtemps sur une vidéo YouTube de Jardin Zen, où j'ai liké la photo du Mont Fuji d'un collègue sur Instagram. On se dit qu'on flâne, quoi.
Ouais. Mais pour un moteur statistique, flâner, ça n'existe pas. Chaque milliseconde d'attention est calculée. Et puis, tu rajoutes ton profil démographique.
D'accord, donc mon âge, où j'habite.
Exactement. T'as entre 30 et 40 ans, t'es urbain, t'as un certain pouvoir d'achat déduit de tes commandes en ligne. Le système a des bases de données historiques massives.
Qui disent quoi ?
Ils disent qu'un urbain de 35 ans qui regarde des vidéos sur l'Asie et qui boit un café avec quelqu'un qui charge des billets d'avion, bah statistiquement, il a 85% de chances de vouloir faire un voyage similaire.
Et bim, la pub s'affiche.
Juste sur des probabilités mathématiques, ouais.
C'est... waouh. En fait, l'algorithme, c'est pas un micro caché. Faut plutôt le voir comme un détective invisible.
Une très bonne métaphore, ouais.
Un détective qui n'a pas besoin de mettre la pièce sur écoute. Il regarde juste les traces de pas dans la neige. Il note la vitesse à laquelle tu marches, la direction de ton regard, les gens que tu croises. Et avec tout ça, il t'attend devant ta destination avant même que tu commences à marcher.
C'est exactement ça. Et le pire, tu sais ce que c'est ? Ce détective, on l'a invité à entrer.
C'est-à-dire ?
Bah, la collecte de données, elle se fait pas en secret dans des caves obscures. Elle se fait au grand jour. C'est l'écosystème de nos applications. Plus de 50% d'entre elles ont des comportements hyper intrusifs.
Ah ouais, on donne nous-mêmes les autorisations.
Et on le fait machinalement.
C'est clair. On voit des trucs absurdes tous les jours, genre une application de météo qui te demande d'accéder à tes contacts. Je veux dire, pourquoi un thermomètre a besoin du numéro de mon dentiste ?
C'est aberrant.
Ou les petits jeux, là, genre le sudoku ou le jeu de mots croisés qui exigent ta position GPS en permanence. Et nous, on veut juste jouer dans le métro,
Donc une fenêtre s'ouvre, on clique sur « Accepter » pour aller plus vite, et paf !
On vient de leur offrir un flux continu de miettes numériques. Et ça soulève une question importante, tu sais ?
Laquelle ?
Pourquoi des boîtes énormes comme Google ou Meta, qui sont déjà fliquées par toutes les autorités du monde, prendraient le risque pénal de faire des écoutes illégales ?
C'est vrai que le risque serait énorme.
C'est totalement irrationnel. Elles n'ont pas besoin de nous écouter. On leur donne les clés de notre cerveau sur un plateau d'argent en acceptant des conditions d'utilisation que personne ne lit jamais.
Le constat donne le vertige, honnêtement. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? On fait quoi ? On jette nos téléphones dans la rivière ?
Ben non, faut pas tomber dans la paranoïa ou le fatalisme.
Surtout qu'on a un plan d'action aujourd'hui. Puisque le système se nourrit de ces petites données, l'idée c'est de l'affamer. On va construire une forteresse numérique. C'est l'étape 1, le grand audit.
Ouais, la première ligne de défense, c'est un audit impitoyable des permissions sur l'appareil. Faut aller dans les paramètres et vérifier chaque appli.
Genre, ce jeu a besoin du micro. Non, je coupe. Cette appli de livraison a besoin de mes contacts. Non, je bloque.
Exactement. Et le truc critique, c'est la localisation. Faut absolument trouver l'option « Autoriser en permanence » et tout basculer sur « Seulement si l'application est active ». Rien que ça, tu coupes les vivres détective invisible.
Ça fait déjà un sacré ménage. Ensuite, étape 2, et ça je trouve ça brillant, s'attaquer à l'identifiant publicitaire.
Ah oui, la fameuse plaque d'immatriculation.
C'est ça. Faut s'imaginer qu'on a une plaque d'immatriculation de consommateur collée dans le dos. Chaque clic, chaque position GPS est rattachée à ce numéro. C'est comme ça qu'il relie les miettes entre elles. Mais on peut le détruire, cet identifiant.
C'est un outil hyper puissant et personne ne le connaît. Sur Android, comme sur Apple, tu vas dans les réglages de confidentialité et tu peux réinitialiser ou supprimer cet identifiant.
C'est comme frapper l'algorithme d'amnésie.
Totalement. Quand tu rouvres une appli, elle voit plus tes 5 dernières années d'historique. Elle voit un visiteur inconnu, une page blanche.
Bon, il y aura toujours des pubs, hein. Le web gratuit marche comme ça, mais elles deviendront génériques. Fini la pub pour le Japon juste après le café.
Voilà. Et pour maintenir ça, on passe à l'étape 3, l'hygiène numérique.
Ah, la recommandation de l'expert que j'ai adoré, le nettoyage par le vide. La règle est simple. Si tu n'as pas ouvert une appli depuis la dernière élection présidentielle, tu la supprimes.
C'est très pragmatique, mais tellement vrai. Une vieille appli, ça sert à rien, à part créer des failles de sécurité et aspirer des datas en arrière-plan. Faut s'en débarrasser.
Bon, une fois que le téléphone est propre à l'intérieur, faut regarder vers l'extérieur. Étape 4, sécuriser les connexions, surtout les réseaux Wi-Fi publics.
Ah, les gares, les aéroports, les cafés. C'est un buffet à volonté pour les pirates, ces trucs-là.
C'est clair. Se connecter à un Wi-Fi public sans protection, c'est envoyer ses infos sur des cartes postales transparentes. Tout le monde peut lire. C'est là qu'intervient le VPN.
Le VPN, le réseau privé virtuel, c'est indispensable. Ça crée un tunnel blindé.
Ça chiffre le trafic et ça masque l'adresse IP. La carte postale devient illisible. Et on peut coupler ça avec des navigateurs comme Brave ou DuckDuckGo pour bloquer les trackers invisibles sur les pages web.
Super efficace. Et enfin, l'étape 5, l'assaut final.
Nettoyer le quartier général.
Ouh, le paramétrage profond des comptes Google et Meta.
Ouais, là, faut prendre un peu de temps. Faut fouiller dans les paramètres de comptes globaux pour couper l'historique de localisation centrale, suspendre l'activité sur le web et refuser qu'ils croisent les infos entre leurs différentes applis.
C'est un peu un travail de désherbage, c'est vrai. Mais la combinaison de ces 5 étapes, ça crée une vraie rupture. On assèche la source.
Le portrait ultra détaillé redevient un vieux croquis tout flou, impossible à utiliser pour le ciblage.
Franchement, le grand changement de perspective qu'on tire de tout ça, c'est qu'on accusait le mauvais suspect. Le mythe du mouchard audio, au final, c'était rassurant, parce que c'était simple. Le méchant qui écoute à la porte. Alors que la vérité, le smartphone, c'est juste une calculatrice statistique monumentale. C'est à nous de fixer les règles de ce qu'on y entre.
Exactement. C'est nous qui avons le pouvoir en configurant les réglages. C'est ça la vraie leçon de cette plongée.
Si l'on relie ça à la situation globale, c'est vrai que la parade fonctionne aujourd'hui. Mais ça soulève une réflexion pour demain. Quelque chose d'assez vertigineux, en fait.
Vas-y, je t'écoute.
Aujourd'hui, on vient de voir que ces moteurs statistiques anticipent nos désirs avec une précision dingue, juste avec nos clics et nos réseaux Wi-Fi. Des actions externes, quoi. Mais la prochaine frontière, elle est sur nous, sur notre corps.
Oula, la biométrie ?
Ouais. Que va-t-il se passer quand nos montres connectées, qui mesurent notre rythme cardiaque en continu, ou nos maisons intelligentes qui analysent notre sommeil et notre température corporelle, quand tout ça va venir nourrir ces mêmes algorithmes statistiques ?
C'est vrai que les montres le font déjà.
Et si un like sur Instagram suffit aujourd'hui à prédire un achat, imagine le niveau de divination quand la machine intégrera nos réactions physiologiques involontaires en temps réel.
Un pic de stress détecté par la montre, croisé avec le contenu qu'on regarde.
Voilà. Est-ce qu'on va arriver à un point où ces machines détecteront l'émergence d'un désir subconscient bien avant que notre propre cerveau n'en prenne conscience ? Si un algorithme sait ce qu'on veut avant même qu'on réalise qu'on le veut, le libre arbitre, ça devient quoi ? Juste une illusion statistique ?
Ah ouais. C'est une pensée absolument vertigineuse sur laquelle s'arrêter. Le détective invisible dans la neige pourrait bientôt analyser non plus les traces de pas, mais les battements du cœur de celui qui marche. Waouh ! On va laisser cette idée flotter dans l'air.
Ça fait réfléchir.
Et c'est tout pour cette plongée au cœur de la machine algorithmique. Un immense merci à tous ceux qui nous écoutent pour leur curiosité.
N'oubliez pas de faire votre audit.
Exactement. C'est le moment d'ouvrir vos paramètres, de couper ces permissions et de rendre vos téléphones amnésiques. Les coïncidences parfaites n'en sont souvent pas, mais l'ingénierie derrière est bien plus fascinante qu'une légende urbaine. À très bientôt pour une nouvelle analyse.